Voilà, bonjour à ceux que j'ai pas salués directement. Et merci pour tout ce qui a déjà été apporté. J'étais sensible dans ces chants, on a beaucoup parlé de liberté. Hein. Je sais pas si. Et peut-être en lien aussi avec le message que je vais apporter maintenant. On est sensible à la liberté et je pense qu'on est sensible à la liberté qu'on a. En tant que citoyen, on est aussi sensible à la liberté que peut nous apporter la Bible en étant enfant de Dieu, libre de marcher avec Jésus. Veillez et priez. Vous connaissez ce verset, un verset bien connu, veillez et priez. Alors vendredi, je suis tombé dans une circulaire de prière, il y a eu un échange par WhatsApp, et puis je suis tombé sur la circulaire de prière pour la Suisse. Est-ce qu'on peut mettre le PowerPoint, s'il te plaît, Laurent. Voilà. Tac, voilà. Alors, le but, ce n'est pas que vous lisiez ça, mais juste en haut à gauche, veillez et priez. Et puis donc, mon attention s'est focalisée sur ce titre, veillez et priez. Donc voilà, vous connaissez peut-être ce mouvement, prier pour la Suisse, et puis là, c'est un flyer qui parle en lien avec les votations du 28 novembre. Des conclusions, voilà, avec des recommandations de vote. C'est pas du tout le but de mon message ce matin de vous dire ce qu'il faut voter le 28 novembre, mais j'ai quand même été focalisé par ce verset, veillez et priez. Et finalement, du coup, j'avais prévu un autre message, et puis j'ai changé de direction, changé le cap vendredi, je suis parti sur une méditation autour de ces textes avec des questions que je me suis posées, mais veillez sur quoi, ou veillez sur qui, ou veillez à quoi. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire quand il a dit ça à ses disciples? On va venir après sur les textes. Donc je me suis intéressé aux textes qui parlent de ça pour essayer d'un peu mieux comprendre ce que Jésus a voulu dire, indépendamment de ce qui est ici dit ici, et puis à qu'on prenne ce verset pour intercéder, prier, et c'est très bien. Mais dans le contexte actuel, qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Donc je suis conscient que ce sujet est directement lié aux votations qui sont devant nous. Mon but n'est pas de faire une propagande pour l'un ou l'autre des camps. Que Dieu me garde, et si vous sentez quelque chose, vous pouvez toujours discuter à la fin, vous me direz, voilà. Je suis prêt à la discussion aussi, mais mon but c'est pas d'arriver à d'influencer l'un ou l'autre camp, mais c'est aussi avec beaucoup de respect pour la liberté d'opinion individuelle à ce sujet que je vous apporte ce message. Donc le dialogue entre les pros et les contras actuellement, je dis pros et contre le vaccin, mais finalement aussi l'issue de cette votation, il est assez difficile aujourd'hui, voire impossible, des fronts se sont créés. Voilà, aujourd'hui on a une situation assez tendue, vous le sentez peut-être aussi dans votre quotidien, vous discutez avec les gens, c'est un sujet de société actuellement qui est là, et je pense qu'il nous impacte aussi tous. Et puis mon souhait c'est que ce message ne nourrissent pas ces fronts, qu'on a encore plus de tensions à ce sujet. J'ai pas l'impression qu'on en a dans notre église. On a des opinions, il y a des qui sont pour, des qui sont contre, on peut en discuter aussi. Que ça nourrisse pas ces fronts, mais apporte un nouvel éclairage peut-être, et qui permette d'apaiser un peu les esprits, et aussi, peut-être, mais ça c'est plus difficile, je pense, d'apporter une capacité de dialogue renouvelée à ce sujet. Alors où est-ce qu'on trouve ces textes dans la Bible ? Alors le premier texte qui nous parle de veiller et prier se trouve dans le texte du jardin de Gethsémané. Donc Jésus demande aux disciples de veiller avec lui avant l'heure de sa mort. On voit Jésus qui est en pleine agonie, il lutte pour sa vie, une agonie spirituelle, mais finalement une lutte aussi humaine, parce qu'il sera crucifié. Et puis les disciples essaient de lutter avec lui, de rester réveillé, de prier avec lui, mais ils n'y arrivent pas. Et à deux reprises, il les quitte, puis il revient, il les trouve endormis, voilà, ils ont pas réussi à tenir le coup. Et puis voici qu'il revient, donc la première fois, il revient, il les trouve endormis, et c'est là qu'on lit ce texte. Ainsi, ensuite, il revint auprès de ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Matthieu 26, 40 à 41 dans la Bible du Semeur. Une histoire très similaire qu'on trouve aussi dans un autre évangile, dans Marc 10, dans Marc 14. Donc dans ce texte, on voit que Jésus nous demande de ne pas céder à la tentation et pour cela, nous devons veiller. Je le vois veiller, ne pas s'endormir spirituellement et prier. Ces deux termes sont pris ensemble, j'ai l'impression qu'ils vont ensemble un peu. Veiller et prier, c'est comme si l'un n'allait pas sans l'autre. Pour veiller ou rester éveillé, il faut prier. Et dans l'autre sens, la prière nous aide à être vigilants et éveillés, sans toutefois que cette vigilance ne devienne trop lourde et pesante. On peut aussi être tellement vigilant des fois que tout devient lourd, mais la prière peut aussi apporter. Donc c'est aussi apporter un équilibre. Et on peut aussi interpréter peut-être ces deux choses, prier, veiller, comme une forme d'équilibre dans notre vie. Donc le message de Jésus que je retiens ici et puis que j'ai formulé aussi un peu selon mes propres mots, c'est prenez garde à vous-même. Votre nature humaine est bien faible et peut donc facilement céder à la tentation. Et il y en a beaucoup. Et toute votre bonne volonté ne suffit pas. Vous avez besoin de prier pour garder votre esprit éveillé à ma présence et recevoir de moi la force pour ne pas céder aux tentations. La première tentation est de vouloir vous débrouiller tout seul, sans moi, sans ma parole, sans ma force, sans mon esprit. Voilà ce premier texte. Je ne pense pas que c'est celui-là qui est à l'origine du titre qui est sur le flyer, mais c'est, je pense, important aussi de le signaler. L'autre se trouve dans le discours de Jésus sur la fin des temps. Donc c'est un discours qu'on trouve dans les trois évangiles synoptiques, donc dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21. Et on va lire ici le passage qui est dans Luc 21, je vais le lire dans la version du Nouveau Français Courant. Et c'est aussi sur ce texte qu'on va méditer plus en profondeur. Comme il me paraît important, parce que c'est à la fin du texte que Jésus vient avec cette injonction ou cette invitation, veiller et prier, il y a tout ce qui est avant. Donc je vais lire le texte presque dans son intégralité à partir du verset 5, donc Luc 21, à partir du verset 5 au verset 36. Quelques personnes parlaient du temple et disaient qu'il était magnifique, orné de belles pierres et d'objets offerts à Dieu. Mais Jésus dit, les jours viendront où, de ce que vous voyez là, il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent alors, Maître, quand cela se passera-t-il? Quel sera le signe qui indiquera le moment où ces choses doivent arriver? Jésus répondit, faites attention, ne laissez personne vous égarer, car beaucoup viendront à mon nom et diront, c'est moi, et le moment fixé est arrivé. Mais ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de révolution, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas tout de suite la fin. Puis il ajouta, car on se dressera peuple contre peuple, royaume contre royaume, il y aura de terribles tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Il y aura aussi des phénomènes effrayants et des signes impressionnants venant du ciel, mais avant tout cela, on vous arrêtera, on vous persécutera, on vous livrera pour être jugé dans les synagogues et l'on vous mettra en prison. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de moi. Ce sera pour vous l'occasion de témoigner à mon sujet. Soyez donc bien décidés à ne pas vous inquiéter par avance de la manière dont vous vous défendrez. Je vous donnerai moi-même des paroles et une sagesse telles qu'aucun de vos adversaires ne pourra leur résister ou les contredire. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, vos sœurs, votre famille et vos amis. On fera condamner à mort plusieurs d'entre vous. Tout le monde vous détestera à cause de moi. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Tenez bon, c'est par votre persévérance que vous sauverez des vies. Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, vous saurez à ce moment-là qu'elle sera bientôt détruite. Alors, ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient vers les montagnes, ceux qui seront à l'intérieur de Jérusalem, qu'ils s'éloignent, et ceux qui seront dans les campagnes, qu'ils n'entrent pas dans la ville. Car ce seront les jours du jugement, où s'accomplira tout ce que déclarent les Écritures. Quel malheur ce sera pour les femmes enceintes et pour celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans ce pays, et la colère de Dieu se manifestera contre ce peuple. Ils seront tués par l'épée, ils seront emmenés en prison parmi tous les peuples, et des peuples piétineront Jérusalem jusqu'à ce que le temps qui leur est accordé soit écoulé. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Sur la terre, les populations seront dans l'angoisse, rendues inquiètes par les bruits violents de la mer et des vagues. Certains mourront de frayeur en pensant à ce qui devra survenir sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée dans toute sa puissance et sa gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance se rapproche. Puis il leur dit cette parabole. Regardez le figuier et tous les autres arbres. Quand vous voyez leurs feuilles commencer à pousser, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces éléments arriver, sachez que le règne de Dieu est proche. Je vous le déclare, c'est la vérité. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Prenez garde, ne laissez pas votre esprit s'alourdir dans les fêtes et les beuveries, ainsi que dans les soucis de cette vie, sinon le jour du jugement vous surprendra tout à coup, comme un piège. Car il s'abattra sur tous les habitants de la terre entière. Ne vous endormez pas, priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force de surmonter tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Ce texte, certainement bien connu, qui est-ce qui ne l'avait jamais lu, ce texte ? Personne. Il est impressionnant, hein, ce texte. Il a quelque chose qui retient notre attention. Mais en même temps, ce texte, il comprend une certaine ambiguïté quant au moment où les événements difficiles ou catastrophiques qu'il décrit se dérouleront. L'histoire commence par une annonce assez abrupte de Jésus que le temple que les disciples admirent sera complètement détruit. Je m'imagine un peu les disciples, là, ils étaient là, oh, magnifique temple, Jésus est avec nous, tout va bien, tout va rouler maintenant. Hein. Puis là, il arrive, bam. Il leur dit, un peu choqué, il demande, Jésus leur dit ça, que ça a complètement détruit le temple. Et puis eux, un peu choqués, mais quand c'est que ça arrivera tout ça, ce magnifique temple, il ne peut juste pas être détruit. Et c'est là que Jésus ne répond pas clairement à leurs questions. D'une part, il dit seulement, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Et puis dans le texte de Marc, là c'est dans le texte de Luc qu'on vient de lire, dans Marc, mais aussi dans Matthieu, il y a ce complément qui est aussi très intéressant, qui dit pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, pas même les anges dans le ciel, ni même le Fils, le Père seul le sait. En d'autres termes, seul Dieu le Père sait quand précisément cette fin sera là. D'autre part, on se demande si toute ou partie de ce qui est décrit ici n'a pas déjà eu lieu. Si on pense simplement au fait que le temple de Jérusalem, il a effectivement été détruit en 70, environ 70 après Jésus-Christ, ce temple a été détruit par les Romains. Ou encore les phénomènes décrits, les tremblements de terre, épidémies, le Covid c'est aussi une épidémie, la famine, la guerre, un bruit violent de la mer et des vagues, je me suis dit c'est peut-être ça le tsunami qu'on a eu, ont tous déjà été vus et vécus. J'ai l'impression qu'il n'y a rien de, en tout cas des événements naturels, rien de nouveau que l'humanité n'a pas déjà vécu, alors que Jésus n'est pas encore revenu. Donc par rapport à cette interprétation des signes de la fin des temps, je reste personnellement assez prudent, et je ne cherche pas non plus forcément à savoir qu'est-ce qui s'est déjà passé, qu'est-ce qui reste à venir, où est-ce qu'on en est. Je vois que le mal est bien présent, et le mal est là, il a très vite commencé, le mal après le départ de Jésus. La persécution n'a pas attendu. Les premiers chrétiens ont tout de suite été persécutés, à commencer par Saul, qui était le chef des persécuteurs avant qu'il se convertisse. Donc il y a un événement, on dirait, historique, chronologique, c'est tout de suite venu. C'est pas aujourd'hui, on parlera dimanche prochain de l'Église persécutée. C'est un phénomène ou une réalité qui est déjà arrivée à beaucoup de monde et qui a commencé très vite après le départ de Jésus. Mais mon idée ici, c'est mon message, je vais retirer de ce texte surtout ce que Jésus nous dit un peu entre ces événements annonciateurs pour nous donner la force et le courage de poursuivre notre vie sur terre. Jésus n'a pas caché la vérité, il est vrai. Aujourd'hui, on parlait que c'était assez anxiogène ce qu'il a dit Jésus. Hein. Ça fait flipper. Hein. Donc, on peut s'imaginer tout ce qui arrivera, on sera persécuté. Je ne sais pas, à la place des disciples, ils devaient être quand même un peu comme ça. Là. On croyait que tout allait bien, mais finalement, ça sera... Donc il y a quelque chose d'assez anxiogène que Jésus n'a pas caché cette vérité. Et le risque, je pense, que notre attention ici s'arrête uniquement sur cette description des événements, et puis essayer de comprendre, etc. Mais mettons plutôt notre focus sur ces interlignes d'encouragement, de promesses et d'invitations à rester actifs qui ont été formulées par Jésus. Et je commencerai par la première, qui est le verset 8. « Faites attention, ne laissez personne vous égarer, car beaucoup viendront à mon nom et diront « C'est moi !» et le moment fixé est arrivé, mais ne les suivez pas. » Donc on voit ici un appel à la vigilance face à ceux qui se prennent pour Dieu ou qui détiennent la vérité. Et je pense que les médias sociaux ont certainement amplifié ce phénomène. Chacun a sa vérité, chacun... Je ne sais pas, vous avez déjà vu souvent, ils parlent de personnel, hein, je pense, je sais, je... donc c'est je, chacun a finalement un peu sa vérité, et puis alors que Jésus seul est la vérité. Et plus généralement, vivre sans Dieu comporte toujours un risque potentiel de se prendre pour Dieu finalement. Donc soyons vigilants et ne suivons pas ces personnes et leurs théories qui remettent en question les vérités fondamentales de l'Évangile. Et ces personnes sont là, et notre choix, notre responsabilité aussi en tant que disciples, et l'Église de Christ, c'est de ne pas les suivre et aussi peut-être ne pas tomber dans le piège qu'ils nous tendent et qui nous éloignerait de Jésus. Et je vois ici ce qu'on vit aujourd'hui, la communion fraternelle, le partage. Mais ça peut aussi aller dans le mentorat ou les personnes qui sont suivies par quelqu'un, avoir un vis-à-vis et tout ça. Toute forme de suivi d'une personne bienveillante sont aussi des garde-fous pour pas que tout à coup on commence à se prendre pour Dieu ou sur certains éléments penser qu'on détient toute la vérité. Au risque aussi de vouloir après imposer ça à ce qu'on appelle aujourd'hui les followers, hein, je prends volontiers un terme aussi, des médias sociaux, tous ceux qui nous suivent. Et je suis frappé, mon frère aîné, il est un peu dans ce milieu-là, voilà, qui est un peu complotiste, entre guillemets, il m'envoie des fois des vidéos. Puis l'autre jour, j'en ai regardé une, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout parce que... voilà. Mais j'étais surpris par l'attitude de la personne qui parlait. C'était « je sais ». Alors « je sais ». C'était « je sais », »,« on sait », voilà, ça ne discute pas, « je sais ». Et je me suis dit, ben voilà, c'est ça cette vérité. On pense, et dans les deux camps peut-être aussi, hein, là je ne dis pas que pour ceux qui « je sais » que le vaccin est pas bien, mais aussi pour peut-être ceux qui disent « je sais que le vaccin ». Il faut rester vigilant de part et d'autre, je dirais aussi. Mais ça c'est, ne vous laissez pas égarer par des choses qui nous éloigneraient de Dieu. Deuxième point, le verset 9, « ne vous effrayez pas ». Alors, il a bien fait de le dire, hein, et je crois qu'il l'a bien fait, là. Il l'a dit tout au début, avant de lister toutes ces catastrophes, il a commencé, attention, n'ayez pas peur, ne vous effrayez pas. Et tout ce qu'on vit actuellement, et bien, depuis bientôt 2 ans avec cette pandémie, c'est effrayant, et ça fait peur. Et la peur, c'est une émotion, hein, qui s'éveille face à des dangers réels ou imaginaires. Et pour ces deux types de peur, entre... lesquels le cerveau ne semble pas faire de différence. Il semble que le cerveau, quand il s'imagine une peur, il a autant peur que si c'est une peur réelle, donc il a un peu la peine à trier. Donc c'est une émotion, et puis là, j'ai l'impression que Jésus leur dit, mais ne vous effrayez pas, quoi que vous affrontiez de dangereux, ou quoi que vous imaginiez comme dangereux, je suis... Je vous assure de ma présence et vous dis de ne pas avoir peur. Donc la peur, c'est cette émotion qui est normale. Et la réponse qu'on a besoin, c'est d'être rassuré. Et Jésus le fait ici avec ses disciples et avec nous. En tout cas avec moi, il le fait régulièrement aussi. Le vaccin, ou plus généralement les mesures de lutte contre la pandémie, est-ce un danger réel, imaginaire, pour toutes sortes de raisons, ou une réponse rassurante, notamment pour voir la fin de ce tunnel, hein? Et je pense, c'est à mon interprétation, je pense que c'est un peu à ce niveau-là aussi que les avis des pros et des contres s'affrontent aujourd'hui. C'est un peu sous quelles lunettes on regarde ce vaccin ou ces mesures. Je ne dis pas qu'un est plus juste que l'autre, hein, mais c'est chacun, on peut le voir sous un autre angle. Le verset suivant, j'aime beaucoup, le verset 13, « Ce sera pour vous l'occasion de témoigner à mon sujet. » Là, malgré la peur qui peut nous paralyser, Jésus les invite à rester actifs. Donc parmi tout ce mal, ces catastrophes, ces persécutions qui peuvent mener devant les tribunaux, nous avons des occasions de témoigner de Jésus avec la promesse que Jésus a fait à ses disciples de ne pas vous inquiéter par avance de la manière dont vous vous défendrez. Je vous donnerai moi-même des paroles et une sagesse telle qu'aucun de vos adversaires ne pourra leur résister ou leur contredire. Donc je trouve ça fabuleux. Non seulement Jésus nous invite à rester proche de lui, en luttant aussi pour ne pas se laisser envahir et finalement aussi paralyser par la crainte, mais on peut avoir des occasions de témoigner. Et c'est ça le royaume de Dieu qui vient. La lumière qui chasse les ténèbres, le bien qui fait fuir le mal. Je disais récemment, j'ai rencontré la madame la maire, on dit, de Versoix, puis on parlait un peu de choses et d'autres, de la société sociale de Versoix, puis elle m'a dit, j'ai demandé, est-ce que vous connaissez un peu des rapports sur la... pour un peu mieux connaître Versoix, sur la situation sociale de Versoix. Puis elle m'a parlé d'un rapport qui a été rédigé par un monsieur, je sais plus, Gonzalez, je crois, et puis qui a mis en évidence des îlots de précarité à Versoix. Et alors là, il y a la Pelotière, ou bien c'est Crèvecœur, hein, le nom général du quartier, je crois, Crèvecœur. Et puis on crée un autre, mais il n'y a pas que là, il y a un deuxième, des îlots de précarité. Et puis aussi, ben, nous, on est des îlots du royaume de Dieu. On est aussi des îlots. Alors ça, c'est un îlot, je pense, ce matin, physiquement. Mais on est chacun des petits îlots de la lumière de Dieu, ici, à Versoix, ou partout où on est, où on se déplace et où on habite. Donc en tant que disciples et Église de Christ, quel témoignage de Jésus donnons-nous en ces temps de pandémie? Est-ce que ce sont, et je cite le titre d'un article qui a paru récemment dans le journal du Jura, « Église évangélique au bord de l'implosion » Je ne sais pas si vous avez lu ce titre. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est des églises qui manifestent l'amour de Dieu en Jésus par des actes concrets, comme la tournée des invendus, des boulangeries pour la Pelotière? Et je trouve ça un acte de bonté. Je ne sais pas, il y avait l'idée de faire un article sur le sujet. Je ne sais pas si c'est encore en discussion, mais je pense que ça serait un bon sujet aussi de parler de ça. Au niveau du réseau, on cherche des histoires comme ça positives. Alors c'est vrai que les médias ne sont pas toujours très friands des histoires positives. Vous avez peut-être déjà remarqué. Ils préfèrent un peu des trucs catastrophiques, négatifs, etc. Donc ils mettront plus volontiers en évidence les tensions qu'il peut y avoir dans les églises actuellement que les belles histoires de créativité, d'engagement des gens, etc. Mais on aimerait faire un effort aussi par rapport aux médias pour leur dire aussi des histoires positives dans nos églises et en espérant aussi que les médias les reprennent. Le verset 18, « Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. » Alors je me suis d'abord dit une promesse qui est un peu irréaliste si elle est prise au premier degré. Non? Ça dépend pour qui. Je crois qu'on perd des cheveux tous les jours, ou bien non? Donc, je la comprends vraiment en ayant aussi en tête un autre passage de l'Évangile dans lequel Jésus nous invite à ne pas nous inquiéter du lendemain, que Dieu prend soin de nous jusqu'au plus petit détail de notre vie. Et puis, s'il nous demande de veiller et de prier, lui aussi veille sur nous. Hein, c'est notre veilleur qui passe non seulement la nuit, hein, les veilleurs dans les hôpitaux, les veilleuses, ils passent la nuit, mais ils passent aussi la journée avec nous. Jusqu'à notre mort, il veille sur nous. Que nous soyons vaccinés ou non, que nous militions pour ou contre le vaccin, peut-être l'un ou l'autre était dans la manif à Genève hier, sa promesse de prendre soin de nous reste valable. Elle est inconditionnelle car son amour est aussi inconditionnel. Et j'ajoute aussi à cette volonté, à cette promesse de Dieu, que cela n'enlève en rien notre responsabilité et les conséquences de nos choix. Et c'est aussi vrai pour le choix de se faire vacciner ou non, des conséquences personnelles, des conséquences sanitaires, sociétales, parmi toutes les conséquences qu'il peut y avoir sur nos choix finalement individuels de se faire vacciner. Verset 19, « Tenez bon, c'est par votre persévérance que vous sauverez votre vie. » Donc c'est une invitation de Jésus à persévérer dans notre foi, malgré l'environnement qui peut nous faire douter, nous éloigner de notre maître. Et ça, je pense, c'est notre part. Témoigner, on a vu la première part, mais ici « Tenez bon ». C'est notre effort, peut-être aussi notre joug. Dans un autre passage, il dit notre joug est léger. c'est celui de tenir bon avec Dieu. Durant cette pandémie en particulier, pandémie mondiale, dont la fin a de la peine à se dessiner. Et si cette pandémie avait comme effet de nous enraciner plus profondément dans notre foi et notre amour pour Dieu et les hommes, afin de, comme il est dit là, sauver notre vie ou sauver notre âme ou acquérir la vie dans d'autres traductions. Et je pense que ça serait un beau fruit, et un magnifique fruit finalement, le résultat réel et éternel de notre espérance, lorsqu'on, comme l'est dit dans le verset 27, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, dans toute sa puissance et sa gloire. Ensuite, il y a ce passage du parabole du figuier, où il nous est dit « De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le règne de Dieu est proche. » Et c'est là qu'on se dit « Combien proche hein ?» On aimerait bien savoir si c'est tout proche ou si ça ira encore longtemps. Alors la réponse que j'ai envie de vous donner, c'est que le règne de Dieu s'est approché de l'humanité, j'ai envie de dire d'un bond, avec la venue de Jésus. C'est ça, la venue du royaume d'une manière extraordinaire. Et qu'il est dès lors très proche, dès la résurrection de Jésus, qui marque le premier jour de ce royaume de Dieu. Donc chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de ce royaume de Dieu. Et nous sommes ouvriers dans ce royaume qui vient, dont la plénitude se manifestera au temps choisi par Dieu. Nos lunettes d'interprétation des événements sont assez différentes d'une personne à l'autre. J'ai envie de dire qu'elles sont aussi assez floues, en tout cas pour moi. Et laissons à Dieu, qui a vraiment la vision parfaite, hein, je pense, pour lui, sa vision, de décider du calendrier, de mise en place son royaume, et aussi sa stratégie qui nous dépasse complètement. Et nous arrivons ici à cette dernière partie, et j'affiche tout le passage, c'est les versets 34 à 36. Donc après avoir entendu Jésus qui parlait, qui expliquait ce qui va venir, j'ai l'impression qu'on arrive ici un peu à la synthèse, même peut-être l'essence ou la conclusion de tout ce qui précède. Priez en tout temps, ça c'est le titre qui est dans la version Nouvelle Français Courant. Prenez garde. Ne laissez pas votre esprit s'alourdir dans les fêtes et les beuveries, ainsi que dans les soucis de la vie, sinon le jour du jugement vous surprendra tout à coup, comme un piège, car il s'abattra sur tous les habitants de la terre. Ne vous endormez pas, priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force de surmonter tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Donc on voit d'abord ici une forme d'avertissement. Prendre garde, prenez garde à ne pas nous laisser, je trouve intéressant la traduction, laisser alourdir l'esprit, ou dans d'autres traductions, alourdir le cœur par des distractions, voilà, des fêtes, des beuveries, tout ce qui nous éloigne finalement de Dieu, ou des soucis de la vie. Parce que ça pourrait nous conduire vers un brutal réveil au moment où le jugement, qui est dit qu'il s'abattra sur tous les habitants de la terre entière, qu'on soit réveillé brutalement à ce moment-là. Et ça me fait penser aussi à la parabole des semences, où des semences ont été semées dans différents terrains. Celui peu profond qui n'a pas permis à la semence de bien prendre racine, ou celui des ronces qui étouffent la semence à cause des soucis qui peuvent empêcher la parole de Dieu de prendre racine dans nos cœurs et de produire aussi des fruits de l'esprit. Et d'autre part, il y a cette clé ici qu'il faut voir, ne pas s'endormir ou veiller ou rester sur ses gardes. Il y a plusieurs traductions, ou rester en éveil, ne pas s'endormir et de prier en tout temps. Cela nous donnera la force de surmonter, de faire face à tout ce qui peut arriver pour se retrouver debout devant le Fils de l'homme, donc de Jésus, un face-à-face qu'on attend tous avec espérance. J'en reviens aux questions que je me suis posées avant, aussi pour aborder ce message, et puis que j'ai essayé aussi de trouver des réponses dans ce texte. Donc, veillez sur quoi? Veillez sur qui ou veillez à quoi? Qu'est-ce que Jésus a pu dire aussi en lisant ce texte, tout ce qui a précédé à cette conclusion finalement de veiller et prier? Alors le premier point, ce qui se base sur le premier texte dans le jardin de Gethsémané, veillez sur soi-même pour ne pas céder aux tentations. Et je pense qu'il y a toutes sortes de tentations. On voit des fois les tentations comme les gros trucs, hein, les gros péchés, l'adultère, ou je ne sais pas, ou de voir des... voir des films qu'on ne devrait pas, ces tentations-là, oui, alors ça, c'est tout des tentations. Mais il y a peut-être des tentations aussi plus subtiles, des fois, de nous éloigner de Dieu, d'être pris dans quelque chose qui va à l'encontre peut-être cette liberté à un moment donné. On est coincé dans quelque chose qui nous éloigne de Dieu. En reconnaissant d'une part notre faiblesse et d'autre part aussi que la meilleure des volontés ne suffit pas quand on a besoin de prier pour garder notre esprit éveillé et sa présence, et de recevoir aussi de Dieu la force pour ne pas céder aux tentations. La deuxième chose sur ce deuxième texte sur la fin des temps, veillez à ce qui se passe dans notre esprit et dans notre cœur, afin que ça ne s'alourdisse pas au point de nous endormir spirituellement. Et pour cela, Jésus nous montre le chemin ici à travers ce texte. Et je rappelle ici en résumé, ne laissez personne vous égarer, ne vous effrayez pas. Saisissez l'occasion de témoigner à mon sujet. Je prends soin de vous jusqu'au plus petit détail. Tenez bon, c'est par votre persévérance que vous verrez le Fils de l'homme venir dans une nuée, dans toute sa puissance et sa gloire. Mon règne vient, il est tout proche, toujours plus proche. Bientôt il se verra et se vivra dans toute sa gloire. Veillez et priez. J'ai un peu oublié d'avancer, voilà. Donc cette attitude, en prenant ces textes, je comprends aussi cette attitude de veilleur et de prieur. Hein. Elle vise à changer notre être intérieur pour que notre connexion avec Dieu devienne toujours plus solide. Et cette transformation intérieure, c'est vraiment de l'intérieur vers l'extérieur, aura un impact sur notre monde, dans le sens qu'il verra à travers nous ce royaume de Dieu qui vient, qui se manifeste par des actes, des paroles d'amour qui sont issues de l'Évangile. L'évolution du monde peut nous inquiéter et nous chagriner aussi, de voir le mal qui vient, ça nous fait. On est triste et c'est normal parce que nous, on voit le royaume de Dieu qui est magnifique, qui vient. Et j'ai l'impression qu'on est un peu comme les disciples, on voit ce temple qui est magnifique. Puis tout ce qui annonce Jésus, oula, mais c'est pas si magnifique que ça. Donc ça peut nous inquiéter. Mais restons confiants que c'est Dieu le maître de l'histoire. Aussi de cette pandémie qu'on vit aujourd'hui, le maître des temps et aussi de la fin des temps finalement. Hop là, j'en ai en arrière. Et notre rôle premier, et je le vois vraiment, notre rôle premier n'est pas de freiner l'évolution de la société. Alors oui, on peut s'engager, on peut faire, je ne veux pas dire par là qu'il ne faut rien faire, il ne faut pas s'engager en politique, c'est très bien, c'est super. Mais je vois ici peut-être plutôt à titre individuel aussi dans cette situation. Ne pas freiner l'évolution de la société et lutter contre le mal, parce qu'on voit que des fois, on lutte aussi des fois contre des murs. Mais plutôt, dans l'inverse, favoriser la venue du royaume de Dieu jusqu'à son retour. Et là, je vois plutôt lutter pour le bien, d'une certaine manière. Et que ce jour soit dans, et que ce royaume de Dieu complet soit dans un jour ou dans 1000 ans. Alors, je ne sais pas si ça ira encore 1000 ans, peut-être. Quelle que soit l'époque aussi qui va précéder cet événement libérateur. Et en luttant pour le royaume de Dieu, nous aurons une influence positive sur la société. Mais ça sera d'abord, j'ai envie de dire, une conséquence de ça qu'un but en soi. La liberté, ou plutôt la perte de liberté, c'est l'argument principal des opposants aux mesures de lutte contre le Covid. Et libre à chacun d'interpréter ces pertes de liberté actuelles et aussi le risque que cela s'aggrave avec l'acceptation de la loi en votation. Mais au-delà des opinions personnelles à ce sujet, n'oublions pas que nous avons en tant que chrétiens une liberté qui ne nous sera jamais enlevée. C'est une liberté intérieure que aucune personne, aucun État, aucun pouvoir, aucune persécution, on verra peut-être dimanche prochain en Chine, des pays comme ça qui ont essayé de tout arrêter. On pourra toujours continuer de prier, c'est peut-être silencieusement, mais en tout cas prier dans son cœur. Géraldine, elle est là. Voilà. J'ai repris ce que tu as dit en groupe de maison. Je ne t'ai pas demandé avant, hein, j'espère que ça... Donc, mardi passé, on a le groupe de maison, on est revenu sur la question, quelle est cette bonne part que Dieu ne nous sera jamais ôtée? Et Géraldine a dit, mais ma bonne part, tu me dis si je le dis juste, c'est de pouvoir toujours être dans mes pensées connectées à Dieu, de prier intérieurement. Ça, c'est la plus de valeur pour moi. Et c'est tout à fait ça, avec cette liberté aussi qu'on a. On peut sentir un peu perdre notre liberté, mais cette liberté-là ne nous sera jamais ôtée. Donc voilà, en conclusion, veillons, soyons vigilants, prions, et n'oublions pas, votons. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, un acte social. On a cette liberté de choix qui provient, et c'est juste, il en parle dans le texte, la constitution, la liberté personnelle est dans notre constitution suisse, donc allons voter. Et aussi la bonne nouvelle de l'évangile, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. J'ai envie de dire, on a deux niveaux de liberté. Et c'est peut-être aussi ça qui fait, qui rend des fois difficile notre, quand on touche à ces libertés, d'y réagir aussi de manière. Comment on vit ça, cette liberté qui, un peu ce poids qui vient avec ce vaccin sur nous. C'est des réactions tout à fait compréhensibles et légitimes. Amen.